pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Bien, merci d'écouter la Radio Okapi. Nous abordons à présent notre premier thème du jour, comment lutter contre le paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. Pour en parler, aujourd'hui nous recevons Dr Jean Angbali, expert en paludisme. Pardon ?
Angbalou.
Angbalou, voilà, docteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va parler du paludisme aujourd'hui. Nous savons que les femmes enceintes et les enfants des 0 à 5 ans sont la cible du paludisme. Aujourd'hui, comment se présente la situation en République démocratique du Congo ?
Oui, merci beaucoup. Je remercie la Radio Okapi pour m'avoir encore donné une fois l'occasion de parler du paludisme. Et surtout en ce mois d'avril, où nous sommes en train de préparer la célébration, la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et nous savons tous très bien que le paludisme est une maladie grave et qui touche particulièrement toute la population. Mais dans cela, il y a un groupe de personnes qui sont vulnérables. C'est entre autres les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et par rapport à ces deux groupes, la spécificité c'est quoi? Le paludisme est une maladie qui, entre autres, tient compte de l'immunité de la personne. Mmh. Et nous savons très bien que la femme enceinte, à cause de son état, l'état d'immunité est un peu déficitaire. La même chose pour les enfants de moins de 5 ans qui sont en train de développer leur immunité, qui n'est pas encore arrivée à maturité. Mmh. Donc ça veut dire que par rapport à l'état de l'immunité, ces deux groupes sont des groupes vulnérables et ils sont, prêts à faire le paludisme grave. Or, les objectifs de lutte contre le paludisme, c'est d'abord de réduire la mortalité et ensuite de réduire la morbidité, c'est-à-dire l'état de la maladie. Et dans notre pays, effectivement...
Par rapport à la mortalité, aujourd'hui, on estime à combien le nombre des femmes qui meurent à cause de la malaria et des enfants qui meurent
à cause de la paludisme. Bien, on ne peut pas donner les chiffres précis, d'autant plus que nous n'avons pas devant nous le rapport.
Les proportions.
Et juste effectivement, nous pouvons dire pour les femmes enceintes, par rapport au paludisme, à la mortalité, c'est assez élevé, ça doit vraiment dépasser le 20%. Tandis que chez les enfants de moins de 5 ans, la mortalité peut dépasser 25 à 30%, surtout dans des hôpitaux, les formations sanitaires qui n'ont pas encore mis en application la politique nationale de lutte contre le paludisme et qui, malgré la mise en œuvre de cette politique, ne sont pas assez outillés pour pouvoir prendre en charge le paludisme grave. Parce que c'est le paludisme grave qui tue et non pas le paludisme simple.
Donc il y a combien de formes? Donc deux formes de paludisme.
Oui.
Le paludisme simple et le paludisme grave.
Le paludisme simple, comme vous l'entendez, c'est un paludisme qui n'a pas de complications, qui a juste la fièvre, quelques signes tels que les maux de tête, les fatigues, les vomissements, et pour lesquels l'examen biologique pour la confirmation parasitologique sont positifs. Il s'agit de quoi? Des tests de diagnostic rapide et de la microscopie. Tandis que le paludisme grave, c'est justement le paludisme qui s'accompagne des complications.
Quel genre de complications, par exemple?
Voilà. Chez les enfants, on peut citer rapidement l'anémie.
Oui.
On peut citer les comas. On peut citer les convulsions. Tandis que chez la femme enceinte, comme toute autre personne, ça peut se compliquer aussi de l'anémie. Mais chez les femmes enceintes, ça dépendra un peu de l'âge de la grossesse.
D'accord, on y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Sylvain nous appelle de Demba, dans la province du Kassai Occidental, et Gabriel de Kalima. Sylvain, bonjour.
Oui, Je suis choqué de la présence de l'invité sur les antennes de la radio Capi. Il parle des problèmes de l'attaque de la malaria vis-à-vis des enfants ainsi que des femmes enceintes. Alors je pourrais lui demander de me dire s'il y a moyen que l'on puisse traiter la malaria qui a attaqué l'enfant dans les ventres de sa maman. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais qu'il puisse me l'implication de la revitalisation des soins de santé primaire vis-à-vis de la femme enceinte. Troisième question, comment s'opère le traitement du paludisme grave ainsi que celui du paludisme simple? Pour finir, M. Jody Daniel Kassiama, je voudrais qu'il puisse me donner la divergence existante entre les soins de santé primaire et les soins de santé précaires. Toi, c'est qui là?
Bien, merci Sylvain. Gabriel, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour, M. Jody Daniel Kassiama, bonjour, c'est à notre invité. J'ai bien suivi l'invité. On nous a dit que le bon moyen de se protéger contre ce fléau-là est de dormir sous les moustiquaires imprégnés des insecticides. Ici, chez nous, en Kalima, on a fait des sensibilisations. On a distribué même des moustiquaires dans chaque maison gratuitement. Nous dormons, et nous, et les enfants, et les femmes enceintes. Mais ce qui me fait regretter, les taux de paludisme s'augmentent du jour au jour. Je ne sais pas si cela est expliqué à quoi.
D'accord, merci. Malgré les moustiquaires imprégnés d'insecticides, on enregistre toujours des cas de paludisme, d'après Gabriel, qui nous appelle des Kalima, dans la province du Maniema. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs, docteur Jean Balou? Le premier a dit, Sylvain Dedemba, comment traiter le paludisme grave et quel est le traitement approprié? Comment traiter le paludisme grave et le paludisme simple?
Commençons par cette première question. Le paludisme simple, d'abord, il faut commencer par le diagnostiquer, parce que les traitements dépendent du diagnostic. Donc, comme j'avais très bien dit, lorsque quelqu'un a une fièvre qui n'a pas haute origine et pour laquelle il n'y a pas de complications et pour laquelle les tests de diagnostic sont positifs, c'est-à-dire la goutte épaisse positive et les tests de diagnostic positifs, on considère comme il s'agit de paludisme simple. Et par rapport à ça, le programme national de lutte contre le paludisme est clair. Le paludisme simple se traite avec les combinaisons à base d'artémisinine qui sont, pour le moment, ici chez nous, l'artesinate amodiaquine ainsi que l'artéméthère lumefantrine en comprimé. Donc, pour le paludisme simple, il n'y a pas de médicaments injectables. Okay. Nous devons être clairs sur cela.
D'accord. Et pour le paludisme grave?
Pour le paludisme grave, il y a tout un schéma. On peut le traiter avec la perfusion intraveineuse de la quinine. On peut aussi utiliser l'injection en artesinate. Ça, c'est les deux molécules que le programme préconise actuellement. Et nous devons dire que, ici chez nous, l'artesinase injectable n'est pas encore très disponible. C'est ainsi que, pour le moment, en tout cas dans plus de 99% des traitements, il s'est fait avec la perfusion en quinine injectable.
Voilà, il dit encore comment revitaliser les soins de santé primaire pour les femmes enceintes.
Ok. Moi, je pense que les soins de santé primaire, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a tout un programme de renforcement des systèmes de santé. Je pense qu'il attend parler du sigle RSS. C'est dans ce programme-là que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a défini les actions. Au fait, c'est tout simplement remettre les zones de santé sur le rail, en dotant les zones de santé des personnels qualifiés, en équipant les zones de santé de tous les matériels en fonction des niveaux, de chaque niveau, et ensuite, en bien payant le personnel. La motivation fait partie, effectivement, du moyen pour améliorer les services.
D'accord. Et il dit, quelle est la différence entre soins primaires et soins précaires? Soins primaires, soins précaires?
Bien, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il voudrait dire par là. Au fait, les soins de santé primaire, ce sont des soins de base. de bonne qualité et rapproché à la population et qui est à un coût accessible. Tandis que les soins précaires, si on peut aller dans ce sens, c'est-à-dire ce qui est précaire. Donc, au fait, ce sont des, je dirais, des soins...
qui ne sont pas bien administrés.
Exactement. Voilà. Des soins d'urgence, mais qui ne sont pas bien administrés. Et ce sont des soins au rabais.
Voilà. Et Gabriel Bétou nous dit, malgré qu'il dorme sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, il a l'impression que le taux de cas de paludisme n'est fait qu'augmenter dans la province du Maniema. Alors, quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui pour lutter contre le paludisme?
Bien, merci. Je crois que là, notre auditeur vient de soulever une question clé, qui est une question de la communication. Je pense que nous, du ministère de la Santé, nous devons faire un effort pour bien communiquer. Peut-être nous avons sur nos tiroirs, dans nos tiroirs, sur nos bureaux, des stratégies, mais nous n'arrivons pas très bien à faire comprendre. Au fait, les gens doivent savoir que la lutte contre le paludisme n'est pas basée sur une seule stratégie. C'est une combinaison de stratégies et qui vise, un, à lutter contre le vecteur, c'est-à-dire le moustique qui amène le paludisme, à lutter contre le parasite, c'est-à-dire le microbe du malaria, mais aussi, pas lutter contre l'homme, c'est-à-dire l'hôte, mais au moins donner à l'homme les informations techniques qui vont lui permettre d'avoir des comportements responsables pour lutter contre le paludisme.
D'accord, donc, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir trois auditeurs. Symphorien, Bidoya et Takananga, Pierrot et Radi à Kindu et Elodie à Gemena.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment lutter contre le paludisme chez les enfants des 0 à 5 ans et chez les femmes enceintes? Symphoria, Bidoya, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kananga, quelle est votre question?
Oui, je voulais... J'ai des petites questions à poser à l'invité. La première est celle-ci. Est-ce que si un enfant de moins de 5 ans a beaucoup souffert pendant son enfance de la malaria, est-ce que cet effet de beaucoup souffrir durant toute son enfance peut avoir des répercussions lorsqu'il sera majeur? Et aussi, pour lutter contre la malaria ou les paludismes, on utilise les insecticides comme les bygones qui polluent aussi l'environnement pendant un temps. Cette pratique ne peut pas créer d'autres maladies. C'est ça un peu les petites préoccupations que j'avais concernant ce sujet.
Bien, merci. Pierrot et Radi, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
On vous écoute.
Oh, j'aimerais juste poser une autre question à l'invité. Quand est-ce que le paludisme peut causer la complication chez l'enfant ou chez la femme enceinte? Est-ce que c'est le fait de traiter cette maladie à la maison ou le fait d'aller tranquillement à l'hôpital? Puisque ce que moi j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens traitent cette maladie à la maison avec le médicament traditionnel. Qu'est-ce que le vétérinaire peut dire par rapport à ça? Merci beaucoup.
D'accord, merci Pierrot. Elodie, vous êtes à Gemena, bonjour.
Bonjour Jody, et puis bonjour aussi au docteur.
On vous écoute.
Merci. Ma première question, je crois, c'est Gabriel a essayé de poser. La question était, qu'est-ce qui fait que malgré que nous dormons sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides, nous faisons régulièrement des crises de paludisme? Parce que moi et mes deux enfants, l'un à 5 ans et l'autre à 3 ans, nous faisons régulièrement ces crises de paludisme. Et puis, même après les cures de l'artésinat à Modiacine, l'enfant que mes enfants prennent ou à 10 que je prends, après les résultats de la GE, nous restons toujours avec un élément positif de la tropo. Et d'autres personnes disent que notre corps, nous ne pouvons jamais manquer un élément positif du tropo. C'est pourquoi je voulais poser la question au docteur si c'est vrai. Et puis aussi, quelles conséquences le fait de boire régulièrement l'artésinase à Modiacine peut avoir sur notre corps? Parce que c'est contre la malaria, c'est le médicament que nous utilisons régulièrement dans ma famille. puis aussi en dehors du milieu, en dehors de l'assainissement de notre milieu ou de dormir sous les moustiquaires imprégnés, quels sont d'autres moyens que nous pouvons utiliser pour nous prévenir? Voilà.
Bien, merci Elodie. Serafin Toumba, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité ainsi aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
J'ai en premier une suggestion.
Oui.
Je voulais un peu parler de campagne de lutte contre le paludisme ici chez nous au Kassai Occidental, précisément à Kananga. Nous avons constaté que le matériel et le médicament que le gouvernement envoie pour la population afin de leur aider quand même à lutter contre cette maladie sont en tout cas au profit des médecins et des chefs des zones de santé qui s'en approprient comme l'air bien propre. Par exemple, il y a aussi des moustiquaires qui se vendent ici à Kananga. Il y a beaucoup de choses qui se vendent. Or, ces histoires-là sont données gratuitement pour aider la population à combattre cette maladie. Alors, ma première préoccupation que je voulais un peu poser à monsieur l'invité, est-ce qu'une femme paludique et ovide, donc enceinte, peut-être donner naissance à un bébé paludique? Et puis, à part aussi les moustiques qui est l'insecte transmetteur de cette pathologie, il y a d'autres insectes transmetteurs du paludisme. Merci.
D'accord. Merci, Serafin. Claude, vous êtes à Mungwalu, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions. Ma première question, c'est... Je voulais savoir d'abord les formes de paludisme. Il y a combien de formes de paludisme? Et notre invité peut nous énumérer ces formes-là de paludisme. Merci.
D'accord, merci. Claude de Mungwalu, nous parlons de la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte et chez les enfants des 0 à 5 ans. Beaucoup de questions, vous allez répondre, docteur, rapidement et d'une manière brève, docteur Jean, à tous ces auditeurs. Commençons d'abord par Saint-Forien de Kananga qui a dit, est-ce que le fait qu'un enfant souffre de la malaria à l'âge, lorsqu'il est encore jeune, est-ce que cela aura des conséquences lorsqu'il sera majeur?
Oui, et c'est une question très importante. Et tout cela, ça dépend à partir de quel moment l'enfant a commencé de souffrir le paludisme. Je crois que j'ai effleuré au départ ici que chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme peut avoir des conséquences graves. Et surtout lorsque la personne, l'enfant a souffert de paludisme grave avant l'âge de 2 ans, effectivement, il peut y avoir des complications au niveau à son âge adulte. Déjà prouvé.
C'est déjà donc, prouvé. Quel genre de conséquences, des séquelles lorsqu'il sera grand?
Par exemple, lorsque l'enfant a fait, par exemple, est entré en coma, par exemple, donc le coma prolongé peut entraîner les séquelles au niveau du cerveau qui peut faire que les coefficients intellectuels puissent baisser. Ça, c'est un exemple concret de ce que le paludisme peut causer sur
l'enfant.
Sur l'enfant.
Et Pierrot a parlé des complications du palud. Est-ce que vous pouvez pas lui parler des complications? À quel moment ça peut survenir?
Les complications du paludisme chez la personne peuvent survenir à tout moment. Je reviens ici sur une des questions que un des auditeurs a posées. Effectivement, c'était, je crois...
L'utilisation des insecticides, ça c'est un problème qui a parlé après, sur ça.
Par rapport avec le médicament, là, pour la gravité. Il y a une personne qui a posé la question de savoir, il y a gravité de paludisme à cause de retard, mauvais traitement. Effectivement, il a énuméré. Le premier, c'est le retard aux soins. La personne est malade, il prend beaucoup de temps. Il laisse le temps au paludisme de se développer et de s'aggraver, et il arrive en retard. Les soins peuvent arriver à temps, au moment où il arrive, mais lui, la personne est arrivée en retard. Première cause. Deuxième cause, c'est l'automédication. L'automédication n'est pas une bonne chose si on n'est pas connaisseur. Une autre raison, c'est des mauvais soins. On peut arriver à l'hôpital à temps, mais si le consultant n'est pas outillé, il peut vous donner des mauvais soins, et ces mauvais soins peuvent être la conséquence de la gravité.
Des complications, oui.
Voilà.
Et Saint-Forien dit, est-ce que le fait d'utiliser les insecticides,
j'en arrive.
Ça peut poser un problème?
Tout insecticide mal utilisé peut toujours causer des problèmes. C'est ainsi qu'il faut savoir quand et comment utiliser. Les baillons ici, ce sont les sprays, les bombes sprays qu'on utilise dans les maisons. La première précaution qu'il faut prendre est que lorsque vous êtes d'abord allergique à des produits, Il ne faut pas que vous-même vous utilisiez l'insecticide. Trouvez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un conseil pour tout le monde. Il est recommandé, lorsque vous faites ça, vous fermez rapidement fenêtres et chambres.
Et vous sortez de la maison.
Non, non, vous commencez par le fond de la chambre et vous allez vers la porte. De telle manière qu'une fois arrivé à la porte, vous sortez, vous fermez. Mais il y en a qui commencent par la porte,
et
il fait
là-bas.
Le tour de la chambre, il sort, il a eu le temps d'inhaler.
Oui.
Et là, ce n'est pas bon.
C'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Est-ce qu'on peut utiliser, et Pierrot a parlé des gens qui utilisent des médicaments traditionnels pour soigner la malaria. Est-ce que
Bien.
Ça marche?
Il reste d'abord à savoir, effectivement, beaucoup de médicaments sont à base de plantes. Mais il reste à savoir si ce que nous attendons, ce dont nous attendons parler ici, dans notre pays, sont de bonnes plantes et qui ont une certaine efficacité.
J'entends que certains parlent du Congo Bololo.
Ah, voilà, j'allais en arriver parce que c'est les noms qui se disent sur tout le monde.
Est-ce que ça soit
personnellement, je ne peux pas le dire parce que si cela était possible, il y a déjà des pharmaciens de chez nous qui ont déjà examiné scientifiquement cette plante-là. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas de rapport où un pharmacien a dit, a confirmé que voilà, Congo Bololo peut soigner. Mais effectivement, il y a des plantes qui ont des effets antipaludiques. Par exemple, je ne fais pas la publicité, excusez-moi, il y a un pharmacien, paix à son âme, est décidé, avait mis au point un médicament à base de plantes, phytomédicament, qui soigne le paludisme.
D'accord. Donc, et ça marchait bien?
En tout cas, moi, je l'ai utilisé à un certain moment. Il y a même deux pharmaciens. Un est vivant et l'autre est décédé. Les deux ont mis au point un médicament, phytomédicament, que moi, personnellement, j'avais utilisé.
Voilà. Alors, rapidement, d'autres auditeurs attendent. Elodie dit qu'elle dort avec ses enfants sous la moustiquaire imprégnée, mais malgré cela, elle est toujours malade.
Voilà.
Quand elle va pour les soins, on lui dit qu'il y a toujours un élément positif des trophons qui reste dans le sang.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est d'abord de savoir comment elle utilise la moustiquaire avec ses enfants.
D'accord, un instant, on va accueillir des auditeurs et on va continuer.
On aura jamais terminé les questions parce
c'est
que...
Ça, c'est ça, on va accueillir d'abord les auditeurs pour ne pas trop les faire attendre. Eric, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, soyez bref, Eric, les autres attendent. Allez-y rapidement.
Oui, j'ai juste une question.
Oui.
Ma question concerne la prévention. On a fini le milieu... Et puis on dort sous la moustiquaire imprégnée. Mais le problème qui est là, avant de dormir sous la moustiquaire, mais les moustiques nous piquent encore, faudra-t-il adopter une autre stratégie pour prévenir le paludisme avant que les gens dorment sous la moustiquaire?
D'accord, merci. Pierre Ngoy de Lumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, pour y aller un peu rapidement, je voudrais directement commencer sur les traitements préventifs du paludisme. Là, on dit de l'usage de moustiquaires imprégnés et de l'assainissement du milieu, bien qu'on semble pas trop insister sur ce point. Et je crois, concernant les moustiquaires imprégnés, moi, je ne trouve pas que ça soit vraiment un moyen très, très efficace par rapport à l'assainissement du milieu. Parce que, des fois, les moustiques nous piquent au crépuscule. Donc, avant qu'on aille dans la moustiquaire, les moustiques commencent déjà à nous piquer. Et des fois, les moustiquaires même, comment est-ce qu'on est en train de les utiliser? Des fois, deux mois après, les moustiquaires sont déjà troués et les moustiques entrent dedans et piquent les enfants à partir de l'intérieur des moustiquaires.
Alors, passez à la
et
question,
fois,
Pierre.
Quand on les lave, on les étale très mal. C'est des fois sous soleil. Je ne sais pas si l'invité peut nous dire quelque chose sur ce point. Et puis... Concernant l'assainissement du milieu, moi je trouve que c'est la manière, c'est la bonne manière ou c'est le bon moyen de pouvoir lutter préventivement contre les moustiquaires.
D'accord.
Des fois.
Merci. Merci Pierre pour. Oui. Merci pour cette contribution. Merci pour cette contribution Pierre. Nous avons Prudence Ngongo de Lumbashi. Prudence, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Monsieur le journaliste, moi j'ai une très grande inquiétude. Mon inquiétude est que le gouvernement fait que chaque jour, il y a l'enfant qui naît. Et lorsqu'il y a l'enfant qui naît, le ministère de la Santé doit être en contact avec le gouvernement. Et le gouvernement doit disposer presque chaque jour pour... Parce que ce n'est pas le premier sujet à la radio Capille qui parle du paludisme. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois,
oui.
Mais ils doivent prendre des précautions.
Quelle est la question alors? Alors, quelle est votre question? Passez directement à la question. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Ma question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement a proposé depuis que le paludisme existe dans notre pays pour que le ministère de la Santé, en collaboration avec le gouvernement, puisse trouver une solution valable afin que le paludisme puisse diminuer, que le taux de, du pourcentage de cette maladie puisse diminuer.
Voilà. Bien, merci Prudence. Docteur Jean Angbalou, revenons à Elodie qui disait qu'elle dort sur la moustiquaire en panier, mais il y a toujours des éléments de trophon, positifs du trophon dans les sangs. Vous étiez en train de répondre brièvement.
Oui, moi je pense qu'on va garder cette question vers la fin.
D'accord.
Parce que je vois que toutes les questions des auditeurs
tournent autour de la
des stratégies, non, des stratégies de lutte contre le paludisme.
D'accord.
Alors que je puisse en parler,
d'accord,
peut-être chacun va trouver la réponse à sa question.
C'est mieux.
Bien, je suis tout à fait d'accord. Et je l'ai dit que pour lutter contre le paludisme, on a plusieurs canaux. Il faut lutter contre le vecteur, c'est-à-dire le moustique. Il faut lutter contre le parasite, c'est-à-dire le microbe. Et il faut aussi mener des actions par rapport au malade, à l'hôte qui reçoit la maladie, de façon à ce qu'il puisse avoir des attitudes favorables à la lutte contre le paludisme. Parlons prévention. Je crois que en matière de santé publique, on peut avoir plusieurs stratégies, mais la stratégie qui va être appliquée, c'est celle qui a un rapport coût-efficacité bon.
D'abord, on préconise l'assainissement du milieu, c'est
ça? Non. Il faut d'abord, la première chose, c'est ça. Mais il faut voir. L'assainissement, il y a deux niveaux. Il y a les grands travaux qui dépendent des travaux publics, mais il y a aussi la communication pour le changement de comportement qu'il faut faire à l'endroit des habitants de la communauté pour essayer de faire l'assainissement, ce qu'on appelle l'assainissement intra- et péridomiciliaire, dans la parcelle et tout autour. Il va s'agir de quoi? Donc, essayer de voir partout où il peut y avoir production de moustiques, il faut faire de la toilette. Là où le moustique vient se reposer, il faut dégager. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a l'utilisation, la bonne utilisation de la moustiquaire. Le problème est que les gens disent qu'on dort sous moustiquaire, on dort sous moustiquaire, mais on ne sait pas quelle est la bonne utilisation.
Et les moustiques nous piquent avant même d'aller et de dormir sous
la moustiquaire. J'en arrive. Ouais. Donc, commençons d'abord par la moustiquaire.
Oui.
La moustiquaire doit être utilisée pendant qu'on sommeille. Et on a appliqué cela parce qu'on a d'abord étudié les comportements de moustiques qui amène la malaria. C'est ces moustiques qui la piquent d'habitude entre, disons, au-delà de 21h jusqu'à 5h du matin. Et on suppose que c'est la période normale où l'homme qui mène des activités normales doit dormir. Mais qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de personnes, pour une raison ou une autre, vont dormir au-delà de 22h, au-delà de minuit. Et ils restent au salon, ils restent à l'extérieur. Et après tout ce temps-là, quand vous allez au lit, vous avez déjà eu le temps d'être piqué par le moustique et vous allez dire que voilà, la moustiquaire n'est pas efficace. Donc, il faut d'abord commencer par dormir à temps sous la moustiquaire. S'il y a des activités qui vous empêchent de le faire, il faut prendre d'autres précautions. Quelles sont ces précautions-là? Utilisez par exemple, si vous êtes dans un milieu fermé, effectivement, des bombes insecticides pour éliminer les moustiques. Si vous ne pouvez pas faire ça, ou vous pouvez le faire et combiner, couvrir l'ensemble, couvrir un peu le corps, disons même les extrémités, porter les habits qui font que on puisse couvrir le maximum la peau.
Mais certains disent qu'il y a même certains produits qu'on vend à la pharmacie, qu'on peut mettre sur la peau, induire la peau.
Voilà, donc je suis en train d'aller systématiquement.
Alors, on n'a plus assez de temps, il vous reste quelques secondes, alors soyez plus bref.
Ok, alors, donc il y a des mesures de prévention, mais il y a aussi les traitements. Il faut se faire bien soigner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc utiliser les bons médicaments et avoir pratiqué les mesures que les médecins, les infirmiers vous donnent après avoir été malade. Donc tout cela, que chacun puisse être responsable, puisse apprendre quelles sont les mesures préventives, quelles sont les mesures pour le traitement et qu'est-ce que lui personnellement doit faire pour qu'il puisse contribuer à la lutte contre le paludisme. Parce que la lutte contre le paludisme, c'est une stratégie multisectorielle qui demande à ce que toute personne concernée puisse participer afin de lutter efficacement contre le paludisme.
Docteur Jean Angbalou, on n'est pas en mesure de m'épuiser.
C'est vraiment regrettable.
confortable.
L'état est très petit, il y a eu beaucoup de questions.
Beaucoup de questions, on aura le temps, on aura l'occasion de... Vous allez revenir
alors, la prochaine fois. Alors, dans ces conditions-là, il faut donner assez de temps pour que les auditeurs puissent apprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour lutter contre le paludisme.
Merci, docteur Jean-Angbalou, expert en paludisme. À la prochaine.
Merci beaucoup, Radio Capi.